VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel, vendredi 3 janvier 2020. Abdelrahman Diaye à la présentation, voici les titres. Tension au Moyen-Orient après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran promet de le venger et Washington affirme avoir sauvé la vie de plusieurs Américains.
L'Iran et Qassem Soleimani étaient en quelque sorte le proconsul iranien en Irak. Ils disposent d'un certain nombre, 4 ou 5 milices.
République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo demande au gouvernement de mener une démarche diplomatique en direction du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. En Guinée-Bissau, le PAIGC, dont le candidat a perdu la présidentielle, va déposer un recours devant la Cour suprême. Puis l'aéroport de Tripoli fermé jusqu'à nouvel ordre après des tirs de roquettes dans le secteur. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. On démarre par la République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo demande au gouvernement de Kinshasa de mener une démarche diplomatique en direction du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi sur les populations dans l'est du pays. Pour lui, l'arrivée massive de populations en provenance de ces pays alimente la confusion autour des rwandophones congolais, l'une des causes du conflit au Congo. Le point avec Eddy Issongo.
Le nouveau cardinal s'est adressé aux journalistes à Kinshasa après une tournée de 3 jours dans la région de Beni. Monseigneur Fridolin Ambongo a expliqué les problèmes des rwandophones de la RDC.
Le frère Bayan Moulengue ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme des Congolais. Et le cas le plus criant, ce sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années. Et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée.
Le cardinal Ambongo a insisté pour que les autorités congolaises résolvent les problèmes des chefs coutumiers remplacés par ceux qui n'en ont pas les droits. À la mission onusienne et à l'armée congolaise, il a rappelé qu'elles doivent bien remplir leur mission de protéger les civils pour se faire accepter.
En Guinée-Bissau, le PAIGC a introduit un recours devant la Cour suprême pour contester la défaite de son candidat, Domingos Simões Pereira, à l'élection présidentielle. Les juges se réuniront lundi pour commencer à analyser les recours du PAIGC. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert compte le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Le candidat du parti d'opposition MADEM et ancien premier ministre Oumarou Sissoko Mbalo a remporté le second tour de la présidentielle avec 53,55% des suffrages. Le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié 30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme Peter Biak Ajak, condamné en juin à 2 ans de prison pour espionnage. Son épouse Nyaton Hotmay a fait part de sa satisfaction dans un tweet. « Mon mari vient enfin d'être libéré par l'intermédiaire d'un décret présidentiel », a-t-elle écrit. Un porte-parole de la prison de Juba, où était détenu M. Biar, a toutefois précisé que les prisonniers n'avaient pas encore quitté leur cellule. Le Parlement éthiopien a modifié sa législation antiterroriste dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme. Toutefois, la nouvelle version a suscité l'inquiétude d'un membre de l'opposition et d'Amnesty International. Cette nouvelle loi, adoptée hier, ne contient plus certaines des dispositions qui avaient permis l'arrestation de dizaines de journalistes et hommes politiques au fil des années. En Libye, les vols ont été suspendus à l'aéroport de Mitiga à Tripoli en raison des tirs de roquettes et de bombardements. Une fermeture qui intervient au lendemain du vote du Parlement turc permettant un déploiement de troupes dans le pays. Nathalie Barche.
Les forces basées dans l'est du pays, dirigées par Khalifa Haftar, mènent une campagne depuis avril pour prendre Tripoli, contrôlé par les forces alignées avec le gouvernement d'union nationale. Les forces de Haftar qui ont balayé le sud de la Libye début 2019 ont déclaré ce vendredi avoir effectué des frappes aériennes dans plusieurs endroits, y compris au sud de la ville de Sirte qui se trouve sur la ligne de démarcation entre les factions belligérantes. L'offensive à Tripoli s'est rapidement arrêtée dans la périphérie de la capitale. Cette avancée a conduit à une implication internationale accrue dans le conflit, la Turquie soutenant le GNA et Haftar recevant l'appui des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de la Jordanie. Selon des diplomates et analystes, des sous-traitants militaires russes ont également été déployés auprès de l'armée nationale libyenne de Haftar pendant plusieurs mois.
Une foule en passant en Libye, plutôt, les vols donc, qui ont été suspendus, vous venez de l'entendre. Une foule importante a défilé à Alger ce vendredi au lendemain de la formation du gouvernement du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune et d'une vague de libération surprise de contestataires détenus. La mobilisation est, selon un journaliste sur place, plus importante que les deux vendredis précédents lors desquels elle avait semblé marquer le pas après l'entrée en fonction du nouveau président Abdelmadjid Tebboune.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le général Qassem Soleimani, chef de la force iranienne Al-Quds, a été tué dans une attaque américaine au missile tôt ce matin à l'aéroport international de Bagdad. Le raid américain sans précédent ouvre une période d'incertitude pour les États-Unis et leurs alliés dans la région. Plus de précisions avec Arzuma Kompaore.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé à venger la mort du général Soleimani et a décrété un deuil national de 3 jours dans son pays. Le haut dignitaire religieux chiite irakien, le grand ayatollah Ali Sistani, a aussitôt condamné l'attaque. Quelques heures après la mort du commandant iranien, des responsables, des protestations ont éclaté dans la région avec des centaines de personnes au Cachemire indien à majorité musulmane, des dizaines de milliers de personnes à Téhéran et d'autres villes iraniennes ou encore dans la ville d'Islamabad au Pakistan. L'ambassade américaine à Bagdad a exhorté les citoyens américains à quitter l'Irak immédiatement. Trump a tweeté vendredi que Soleimani aurait dû être éliminé il y a de nombreuses années. Il poursuit dans son tweet que Soleimani a tué ou gravement blessé des milliers d'Américains sur une longue période de temps et complotait pour en tuer beaucoup plus, mais s'est fait prendre. Alors que le président du Conseil européen Charles Michel appelle à la fin du cycle de violence en Irak et que l'ambassadeur français aux Nations Unies appelle à la désescalade, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine exhortait toutes les parties à respecter les principes de la charte de l'ONU et les normes de base des relations internationales. Quant au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a félicité le président américain Donald Trump d'avoir agi rapidement, avec force et de manière décisive. Les États-Unis ont actuellement 5200 soldats déployés en Irak, officiellement pour aider à former leur armée et s'assurer que le groupe État islamique ne réapparaîtra pas comme une force.
Et puis l'assassinat donc du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué donc à Bagdad, divise profondément les démocrates et les républicains au Congrès. L'opposition démocrate a critiqué avec virulence la décision du président républicain d'ordonner cette frappe sans l'aval du Congrès. Éric Manelakiza.
Cet acte représente une escalade dangereuse dans la violence, s'est inquiétée la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui avait ouvert à l'automne la procédure de destitution contre Donald Trump au Congrès. Troisième personnalité politique aux États-Unis après le président et le vice-président, Madame Pelosi a souligné que la frappe avait été menée sans consulter le Congrès. Des ténors républicains se félicitaient au contraire de cette opération. Le sénateur Lindsey Graham, grand allié de Donald Trump, a en revanche affirmé avoir été informé d'une opération potentielle plus tôt cette semaine lorsqu'il rendait visite au président dans sa luxueuse résidence en Floride. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié pour sa part Qassem Soleimani de cerveau terroriste lors d'un discours dans l'hémicycle. Il a annoncé que la Maison-Blanche informerait dès vendredi des attachés parlementaires sur la situation en Irak, puis qu'il espérait pouvoir organiser un briefing de tous les sénateurs tôt la semaine prochaine. Le président Trump vient de jeter un bâton de dynamite dans une poudrière Il doit au peuple américain une explication, a réagi l'ancien vice-président Joe Biden.
Voilà, donc merci beaucoup Eric Manirakiza pour ses dernières réactions ici aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. On passe à l'actualité économique en Afrique. La Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Banque du Portugal évalue l'aptitude d'Isabel dos Santos en tant qu'actionnaire des institutions portugaises après qu'un tribunal angolais a ordonné le gel de ses avoirs en Angola plus tôt cette semaine. Isabel dos Santos détient des parts importantes dans plusieurs grandes sociétés portugaises, dont la Banque Eurobic où elle détient 42,5%, la Société de télécommunications NOS et la Société d'ingénierie EFASEC. Elle est aussi partie prenante du groupe Galp Energia, dont les principaux actionnaires sont la Société pétrolière nationale angolaise Sonangol et Exxem Energy, une société dont dos Santos, son époux syndicat de Kolo et leur banquier da Silva sont les bénéficiaires. Le prix du cacao a augmenté cette semaine. À Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars valait 1838 livres sterling contre 1817 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en mars valait 2528 dollars contre 2497 dollars 7 jours plus tôt. Selon Jacques Scoville, analyste pour Price Futures Group, les fortes pluies en Afrique de l'Ouest, où est produit l'essentiel du cacao, peuvent gêner la récolte actuelle mais sont positives pour la prochaine. Pour terminer, l'or a bondi tandis que le cuivre a baissé aujourd'hui. À Londres, l'once d'or valait 1546,22 dollars ce vendredi contre 1510,56 dollars 7 jours plus tôt.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bonsoir Abdou.
On commence par le dernier match de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Rien n'arrête Liverpool.
Tout à fait. Les Reds se sont facilement imposés face à Sheffield United 2-0 jeudi soir. Ils maintiennent leur avance de 13 points sur Leicester qui s'est imposé mercredi à Newcastle 3-0 et de 14 points sur Manchester City victorieux d'Everton 2-1. Cela fait maintenant plus d'un an que les champions d'Europe en titre n'ont pas perdu un match de Premier League. Leur victoire obtenue contre Sheffield United, la 19e en 20 matchs de championnat cette saison.
Dakar 2020, des innovations pour favoriser l'équité.
L'édition 2020 du rallye Dakar qui démarre dimanche et se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite va voir l'introduction de plusieurs nouveautés sur le plan sportif avec l'idée de favoriser l'équité entre concurrents. Grande nouveauté de cette 42e édition sur 6 étapes, le roadbook sera distribué aux concurrents le matin même de la spéciale et non plus la veille au soir. Objectif, niveler les différences de préparation entre concurrents et redonner plus de place à la navigation en temps réel. Pour toutes les catégories de véhicules, la course sera stoppée pendant 15 minutes sur les spéciales de plus de 300 km afin de vérifier les appareils de sécurité, les appareils GPS, donner à boire et à manger aux concurrents. Sur deux étapes, les motos et les quads n'auront droit qu'à 10 minutes de mécanique à l'arrivée du bivouac avant de repartir pour l'étape du lendemain. L'idée est de faire baisser la vitesse des motards en les forçant à gérer l'endurance et l'économie de leurs machines, notamment l'usure des pneus.
Enfin, les résultats du championnat nord-américain de basketball après les matchs disputés jeudi.
La Clippers a battu Detroit 126 à 112. Dallas a gagné contre Brooklyn 123 à 111. San Antonio a été mené devant Oklahoma City 103 à 109. Miami a battu Toronto 84 à 76. Sacramento a gagné contre Memphis 128 à 123. Chicago a échoué devant Utah par 98 à 102. Minnesota a battu Golden State 99 à 84. Cleveland a été mené par Charlotte 106 à 109. Enfin, Indiana a perdu face à Denver 116 à 124. Et côté classement, Milwaukee est en tête de la conférence Est, tandis que la Lakers reste leader au niveau de la conférence Ouest. Et c'est tout pour les sports. Abdou.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diat, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo affirme que le général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad, préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Soleimani était à la tête de la force Al-Quds chargée des opérations extérieures des gardiens de la révolution iranienne. Pour une analyse, donc, Nathalie Barge a joint à Paris Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro.
On était rentré dans une espèce d'engrenage de la violence avec une attaque, une tentative de prise d'assaut de l'ambassade américaine en Irak. Et c'est probablement ce qui a effrayé Donald Trump, qui a probablement vu renaître le scénario traumatisant de la prise d'assaut de l'ambassade américaine en Iran en 1979.
Quel rôle joue exactement l'Iran en Irak? Autrement dit, quelle est l'envergure des groupes chiites actifs et influents dans le pays?
L'Iran et Qassem Soleimani, qui était en quelque sorte le proconsul iranien en Irak, dispose d'un certain nombre, 4 ou 5 milices constituées d'Irakiens, mais qui sont commandées justement par Qassem Soleimani ou par son numéro 2 qui était irakien, Abu Mahdi al-Mohandes. Et vous avez le Kataeb Hezbollah, vous avez un autre groupe qui s'appelle Asaeb el-Haq, vous avez un troisième groupe Khorasan, et donc vous avez comme ça peut-être 30-40 000 hommes qui sont des Irakiens, mais qui obéissent aux ordres de Téhéran. En septembre, j'ai vu le chef d'un de ces groupes, Abou Ala al-Walahi, qui est le chef de ce qu'on appelle Kataeb Shuhada, qui m'a dit très clairement, je suis irakien, mais mon chef, c'est Ali Khamenei, le guide suprême iranien, j'obéis au Pasdaran, j'obéis à Téhéran. C'est comme ça que l'Iran dispose d'une capacité de nuisance en Irak, mais aussi dans d'autres pays, au Liban, avec le Hezbollah.
Téhéran a promis de riposter le Hezbollah au Liban également. Y a-t-il un risque de riposte iranienne de grande envergure?
Alors, je dirais que l'Iran a l'habitude de réagir à froid et de manière asymétrique. Et Téhéran a d'ailleurs fait savoir qu'il réagirait au bon moment et au bon endroit. Donc je ne pense pas qu'on doit s'attendre dans les jours qui viennent à une riposte iranienne directe contre les États-Unis. Je pense que la riposte première devrait intervenir très rapidement, mais ce sera une riposte plutôt politique en Irak, où le Parlement à Bagdad doit se réunir demain pour étudier un projet de loi qui vise à expulser les forces étrangères d'Irak, donc en particulier américaines. Donc ce projet de loi avait été rejeté in extremis au printemps dernier. Cette fois-ci, il n'est pas sûr que ce projet de loi soit de nouveau rejeté. Il peut y avoir, en attendant aussi, des tirs de roquettes de la part des milices irakiennes pro-iraniennes contre des bases en Irak où sont stationnés des soldats américains. Il peut y avoir aussi des tirs contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, contre les alliés des Américains dans le Golfe. Mais je crois que l'Iran n'a jamais eu l'habitude de riposter à chaud et sans calibrer sa réponse. On peut aussi évoquer le fait qu'une autre victime collatérale de cet accès de violence, c'est les espoirs qu'on pouvait avoir de négociations sur le dossier nucléaire iranien entre Donald Trump et l'Iran. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, n'acceptera pas qu'on aille négocier avec celui qui a ordonné la mort de Qassem Soleimani et qui était celui qui, justement, a permis à l'Iran d'être puissante hors de ses frontières.
C'était Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro. Et en Afrique, cette actualité au Moyen-Orient est très suivie. Timothée Donangbaye a recueilli l'analyse de Bakary Samb. Il est directeur de Timbuktu Institute, basé à Dakar.
Ce que l'on craint, c'est que ces menaces proférées par l'Iran en faisant de chaque diplomate américain une cible potentielle puissent avoir un écho. Pour cela, les risques demeurent pour le moment faibles au regard de la faiblesse de la présence de communautés chiites endogènes en dehors des grandes communautés syro-libanaises assez présentes dans les différents pays et qui ont un pouvoir économique certain et qui sont liés au Hezbollah. Au demeurant, la politique américaine depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a suscité pas mal d'interrogations, notamment lors des premières mesures qui ont été prises pour empêcher certains pays, certains ressortissants d'entre les États-Unis, notamment des populations d'origine musulmane. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question très importante à surveiller de très près, d'autant plus qu'il y a l'émergence de jeunes communautés chiites et la présence universitaire iranienne aujourd'hui dans les grandes villes comme Dakar, comme Conakry, comme Niamey, et que l'Iran, à défaut d'une présence militaire stratégique, a quand même une certaine influence au niveau des jeunes communautés chiites endogènes qui se développent dans nos régions. Donc je crois que il faudra véritablement observer dans les jours qui viennent comment la situation va évoluer et quel sera le retentissement. Et surtout, la population à dominante musulmane sera beaucoup à l'écoute des positions que prendront certaines organisations pan-islamiques, notamment l'organisation de la conférence islamique et tant d'autres. Donc la situation est à observer, mais le risque, bien que faible, demeure réel qu'il y ait des réactions anti-américaines dans certains pays.
Et qu'en est-il des autorités même des différents pays africains? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réaction de leur part?
Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réactions des autorités et des pays d'Afrique. Et je crois que cela est dû à une forme de prudence dans la réaction, sachant que les autorités en général préfèrent s'aligner sur des réactions collectives, en tout cas des prises de position au niveau des grandes organisations régionales ou internationales. Maintenant, il faudrait s'attendre à ce que, sous la pression de certaines opinions publiques et sous la pression de certaines populations qui pourraient manifester, que les autorités puissent prendre la parole pour soit rassurer ou dissuader d'une implication trop grande des différentes populations musulmanes par rapport à cette question iranienne. Le fait est que l'islam sunnite est majoritaire en Afrique de l'Ouest, par exemple, mais il y a des poches assez influentes, notamment avec le mouvement d'Ibrahim Zakzaki au Nigeria, des communautés chiites endogènes avec Soula Haidara au Mali, mais aussi au Sénégal, dans la région sud, et en Côte d'Ivoire, en Guinée, notamment avec la présence du réseau Al-Mustafa, qui constitue un réseau d'enseignement chiite très proche de l'Iran, où les étudiants parfois peuvent suivre des cursus et aller compléter leur formation à Qom, notamment en Iran.
Le professeur Bakary Samb, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les autorités malawites distribuent des alarmes aux personnes atteintes d'albinisme. Avec cette initiative, elles espèrent que les nouveaux gadgets permettront d'empêcher les attaques et les meurtres d'albinos. Mais ces alarmes n'ont qu'une portée limitée, ce qui suscite de nombreux doutes quant à leur efficacité. Lamek Massina s'est rendu sur place à Lilongwe avec un récit de Dili Diko.
Chipiliro Laston, un vendeur malawite albinos, a failli être enlevé en mars par trois individus prétendant d'être des policiers. Ces hommes affirmaient être chargés de fouiller des maisons de villageois à la recherche de parties de corps d'albinos utilisées en Afrique de l'Est pour la magie noire. Lorsque les individus n'ont pas été en mesure de produire des badges de police, il a compris que quelque chose clochait. Les villageois ont ensuite remis les trois criminels à la police.
J'ai réalisé que je pouvais être tué à n'importe quel moment. Ces gens sont venus de façon si inattendue. J'étais terrifié et j'ai compris que j'étais traqué. Depuis, je vis dans la peur.
Les albinos sont la cible de meurtres rituels perpétrés par des gens qui croient que certaines parties de leur corps apportent chance, pouvoir et richesse. La police malawite rapporte qu'au moins 25 albinos ont été tués depuis 2014 et que leurs tombes sont souvent profanées, non pas pour des objets de valeur, mais pour leur corps. Cette année, les autorités du Malawi ont réagi aux demandes du public en distribuant des alarmes aux quelques 10 000 albinos du pays.
En tant que gouvernement, nous essayons de créer un environnement sûr pour les personnes atteintes d'albinisme. C'est pourquoi nous leur distribuons ces gadgets, afin qu'elles se protègent et vivent en sécurité dans leur communauté.
Initialement, les albinos malawites avaient refusé ces alarmes parce que les autorités les présentaient comme étant des cadeaux du président Peter Mushaira. L'alarme s'actionne en retirant la goupille de sécurité, mais elle ne peut être entendue que dans un rayon d'environ 100 mètres.
Vous pouvez convenir avec moi que ce bruit n'est pas assez puissant pour alerter les gens. Et en plus, ce n'est pas dans nos habitudes au Malawi de courir pour aller voir ce qui se passe lorsque nous entendons ce type de bruit.
La police malawite et les dirigeants locaux sensibilisent le public afin qu'ils réagissent aux alarmes. Pour sa part, Chipiliro dit qu'il se sent un peu plus en sécurité avec l'alarme, mais sa portée limitée le dissuade de voyager pour gagner de l'argent. Il a donc du mal à joindre les deux bouts.
Le basketball en fauteuil roulant est de plus en plus populaire au Soudan du Sud, donnant de l'espoir aux athlètes handicapés. Certains ont perdu leurs jambes à cause des munitions non explosées dans ce pays miné par des décennies de conflits. Les joueurs de basket professionnels américains en fauteuil roulant, y compris l'américano-soudanais Malat Wei, ont aidé en décembre 80 joueurs sud-soudanais à participer à un programme d'entraînement et à un tournoi. Le reportage à Juba de Sheila Pony avec le récit de Timothée Donangmei.
Malat Wei a perdu l'usage des jambes à cause de la polio au Soudan du Sud quand il avait 3 ans. Quand il avait 12 ans, après plusieurs années dans un camp de réfugiés, la famille de Wei a déménagé aux États-Unis. Il a réussi à intégrer l'équipe de basket en fauteuil roulant de l'Université de l'Arizona. En décembre, il était de retour au Soudan du Sud en tant que modèle pour d'autres athlètes handicapés.
J'ai vécu la même situation que ces athlètes. Alors, pour moi, c'est encourageant qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui se soucie vraiment de nous.
La formation en est à sa 3e année. Elle a été organisée par le Comité international de la Croix-Rouge et l'Association sud-soudanaise de basket en fauteuil roulant. Pour la première fois, 15 femmes ont pris part à la formation, y compris Anna Doki Gabriel.
En tant que personne en fauteuil roulant, le basket m'a fait vraiment sentir que nous pouvons faire ce que les personnes sans handicap font.
Les conflits et la pauvreté sont à l'origine de la marginalisation de plus de 1,2 million de personnes handicapées. Mais les organisations comme le CICR essaient de combattre les préjugés sur les personnes handicapées. Jess Macht est conseiller du CICR.
Une fois qu'ils commencent à avoir cette confiance en eux-mêmes et qu'ils commencent à réaliser que peut-être ce que l'on a toujours dit sur leur place dans la société n'est pas vrai, donc ils commencent à attendre plus d'eux-mêmes et de la société qui les entoure.
Grâce à cette formation, dit Wei, des athlètes de différentes tribus rivales se retrouvent pour s'entraîner et jouer comme un seul pays et oublier les conflits.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Zainab Abdelrahman, présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.